L'IA, couplée à une plateforme de marketing omnicanal, permet de faire gagner jusque 10% sur le panier moyen et de réduire le churn de 24%, m'a expliqué Pauline Delbos, Global Senior Customer Marketing Manager chez MR6. Elle en a profité pour me livrer ses 5 conseils principaux pour réussir sa stratégie de marketing omnicanal. Dans ce billet, le cinquième de notre série dédiée au marketing digital, nous avons dressé le portrait du marketing omnicanal, de ses chiffres principaux et fait l'inventaire du chemin qui reste à parcourir pour atteindre une performance optimale. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, vous êtes bien dans les podcasts de Visionary Marketing, je suis Yann Gourvenec, le sujet du jour, marketing omnicanal, jusque 10% de CA en plus grâce à l'IA avec MR6, ce billet est le cinquième de notre série sur le marketing digital réalisé avec MR6, une filiale de SAP. Il y a quelques années, le CMO Club publiait un livre blanc intéressant dont la promesse était de démythifier le marketing omnicanal. Ça s'appelait même OmniWhat. C'était l'époque où l'on sortait d'une vision multicanale du marketing, même message, différents canaux, et où l'on commençait à parler de marketing omnicanal, unification du parcours client, quel que soit le canal, et personnalisation du message et du canal. La nuance semble mince, mais elle ne l'est pas. Il s'agit d'un changement total de philosophie, guidé par un bouleversement des comportements des consommateurs, une concurrence accrue sur les canaux digitaux et une accélération de tous ces phénomènes à l'issue de la crise de 2020-2021. En 2022, alors que le terme d'omnicanal est désormais bien établi, les usages ne sont cependant pas toujours à la hauteur du discours. 71%, nous dit Gladly en 2021, des consommateurs réclament une expérience cohérente sur tous les canaux, mais seulement 29% déclarent l'obtenir réellement. Même si le chiffre de Gladly s'applique essentiellement à l'aspect service client de la relation omnicanale, et non seul marketing, cela donne une indication sur la longueur du chemin qu'il reste à parcourir. Notons également que les chiffres que nous utilisons ici sont pour la plupart américains et que la maturité du marché en Europe n'ayant rien de comparable, on peut aisément poser l'hypothèse que les défis restent nombreux de ce côté-ci de l'Atlantique. Pourtant, l'omnicanal n'est plus un sujet pour consultants en mal d'histoire à raconter. Il s'agit d'un sujet de fond qui correspond à une réalité du terrain, comme nous le rappelle à juste titre Marketing Week. Le site internet américain indique l'évolution du nombre de points de contact entre 2000 et 2015. Alors pour simplifier, en 2000, 2 points de contact, 66% des répondants. En 2015, 23% des répondants, 2 points de contact. 3 points de contact, 32%. Et 4 points de contact, 15%. 5 points de contact, 15% encore. Et même 5% avec 6 points de contact. Certains auteurs n'hésitent pas à citer 10 points de contact en 2022, mais ne fournissent pas de chiffres utilisables. Il y a quelques années, Google avait même cartographié les parcours clients de manière dynamique en fonction des points de départ. Alors, je vous le lis pour ceux qui n'ont pas l'article sous les yeux. 65% démarrent sur un smartphone. Et c'est là, on est en 2015. Hein, 61% de ces 65% continuent sur un PC ou un laptop. 4% sur une tablette. Alors, 25% démarrent sur un PC et un laptop. 19% de ces 25% continuent sur un smartphone. 5% continuent sur une tablette. Et puis, on avait 11% qui démarraient leur parcours client sur une tablette, dont 10% continuaient sur un PC et un laptop. Hélas, les chiffres fournis par Alphabet sont assez anciens, 2015, mais ils permettent de toucher du doigt cependant le fait que les consommateurs passent aisément d'un canal à un autre, et même plusieurs fois. Un autre billet plus récent, toujours chez Think with Google, donne une idée, mais pas de point de comparaison, hélas, quant à la nature et au nombre de points de contact avec les clients. Voilà, et bien entendu, tout commence avec la recherche sur Internet. On n'en attendrait pas moins de Google qui nous recycle à l'infini son « Zero Moment of Truth », il faut bien vendre sa soupe. Le marketing omnicanal, en fait, n'est plus un choix, c'est une obligation. 72% des consommateurs s'attendent à ce que les entreprises connaissent l'historique de leurs achats, quel que soit le mode de communication. Et là, c'est CX Today qui nous le dit. Le commentateur d'ailleurs de CX Today ajoute « 9 consommateurs sur 10 souhaitent un service omnicanal. Si un client interagit en ligne via un chatbot et a ensuite été redirigé vers un agent au téléphone, il s'attend à ce que l'agent ait accès aux conversations précédentes et soit en mesure de poursuivre l'interaction sans aucune hésitation, nous précise-t-il. Ce qui vaut pour le service client vaut bien entendu également pour le marketing et la communication. Les consommateurs sont à la recherche de cohérence. Qui n'a pas été déçu de lire qu'une offre ou une promotion était disponible sur un canal et pas un autre ? Un marketing de l'ancien temps qui fait pourtant encore de la résistance. Il ne s'agit donc plus d'apporter une cohérence entre les différents canaux, mais une synchronisation parfaite. Et les enjeux sont considérables, car si les exigences des consommateurs se sont accrues, il faut aussi noter que la concurrence s'est également durcie. Le boom de l'e-commerce qui a suivi la crise de 2020-2021 a en effet attisé les convoitises de tous les marchands qui avaient déjà fait l'effort de digitaliser et les autres qui se sont sentis obligés de rattraper le mouvement. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans le domaine du commerce électronique ni autant de concurrence, nous dit Shopify dans son livre blanc Future of E-commerce 2022. L'effondrement du rendement des dépenses publicitaires pousse les marques à donner la priorité à la valeur de la vie du client et à promouvoir la fidélité à la marque. En conséquence, les décideurs de la distribution américains s'accordent à dire qu'une stratégie omnicanale sans faille est essentielle à la réussite de l'entreprise, et cela est cité par l'organisme de recherche Research Live en 2017. Tout ceci ne se fait pas sans heurts, nous explique toujours Research Live dans son étude de 2017. 74% des distributeurs sont insatisfaits, je cite toujours, de l'exécution et de la progression de leur approche omnicanale. La technologie constitue un obstacle puisque seuls 12% des distributeurs affirment avoir mis en place une technologie propre à soutenir leur stratégie. Là encore, il s'agit de chiffres un peu anciens, mais nous n'avons pas trouvé de preuves inverses récentes. Face à ces défis, les risques sont importants pour les distributeurs, c'est ce que nous apprend Accenture. Un tiers des consommateurs, nous explique le cabinet de conseil américain, qui ont mis fin à leur relation avec une entreprise l'année dernière, l'ont fait parce que leur expérience n'était pas assez personnalisée. Et là, je cite le livre blanc Accenture Put Your Trust in Hyper Relevance de 2017. Pour y parvenir, il faudra de la technologie, certes, et il faudra la mettre en œuvre correctement et pragmatiquement. C'est un classique des Martech. Mais avant tout, comme le souligne à juste titre Pauline Delbos dans notre interview, il faudra maîtriser des données first et zéro partie et les faire communiquer. Alors je répète, les données clients zéro partie sont les données ouvertement et intentionnellement partagées ou communiquées par les clients, préférences, les centres d'intérêt. Les données clients first party, les données clients collectées par l'entreprise, les données comportementales de vente, de transactions, les données démographiques. Place désormais à notre interview avec Pauline Delbos, Global Senior Customer Marketing Manager chez MR6, qui nous a partagé ses bonnes pratiques du marketing omnicanal et nous a livré 5 conseils utiles pour bien le mettre en œuvre. Je les résume ici. Conseil numéro 1, en marketing omnicanal, il ne faut pas stocker ses données en silo. Conseil numéro 2, communiquer auprès de ses clients de manière proactive et non réactive. Conseil numéro 3, poursuivre la conversation avec ses clients après leur visite en magasin. Conseil numéro 4, choisir les canaux marketing préférés de ses clients. Conseil numéro 5, optimiser les mix de ces canaux et les utiliser pour maximiser les ventes. Alors, je suis avec Pauline Delbos. Bonjour Pauline, vous êtes Senior Customer Marketing Manager chez MR6 pour le monde. Et nous allons parler de marketing omnicanal et des choses à ne pas faire. Alors, et les choses à faire. Est-ce que vous avez une liste à nous proposer ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai notamment quelques recommandations que nous donnons à nos clients. Donc, si je vais commencer par les choses à ne pas faire et en donner qu'une, ce serait de ne pas stocker vos données en silo et de vraiment casser les silos. Si vos données comportementales pour les emails sont stockées à un endroit et vos données clients à un autre, il sera difficile de faire le lien entre les deux pour vous. Donc le but pour vous, ça va être de rassembler toutes vos données dans un seul et même endroit afin d'obtenir en fait une vue unifiée de votre client, une vision, ce qu'on appelle à 360 degrés, où vous pourrez ainsi avoir la meilleure visibilité sur les interactions de vos clients et d'envoyer des communications pertinentes, ciblées et percutantes auprès de vos clients. Donc ça, c'est vraiment pour la chose à ne pas faire.
Alors comment on fait ça? Parce que c'est facile à dire, mais quand on est dans une grande entreprise et qu'il y a des bases de données un peu partout, c'est pas évident ça.
Ah bah ça c'est clair. Donc pour cela, il faut tout simplement stocker dans une même source de données, définir une seule et même source de données dans laquelle vous allez stocker l'ensemble de vos données et de vos interactions en travaillant avec notamment votre département IT.
Et il y a peut-être des outils comme la Customer Data Platform qui peut aider peut-être sur ce genre de choses.
Oui, tout à fait, oui, ce qu'on appelle la CDP qui va permettre de centraliser les données et derrière de pouvoir mesurer l'ensemble des interactions d'un individu X.
Bien, c'est très clair. Donc voilà le premier point, casser les silos de données et les centraliser. Alors le suivant?
Et le suivant, ça va être sur les choses à faire. J'en aurai deux recommandations à partager avec nos auditeurs. Ce serait de communiquer auprès de vos clients de manière proactive et non réactive. Et là, le moyen pour y parvenir, c'est notamment grâce à l'intelligence artificielle. Avec l'IA, vous pouvez automatiser votre segmentation, pousser le bon contenu sur le bon canal pour engager de la meilleure façon en temps réel avec vos clients. Donc ça, c'est une des premières recommandations, c'est communiquer de manière proactive et non réactive. Et si je devais en donner une seconde, ce serait pour les marques qui ont à la fois des magasins là physiques et des magasins en ligne. Je pense notamment à Armentieri ou la boutique du coiffeur, qui doivent poursuivre la conversation avec leurs clients après qu'ils aient quitté le magasin. Et là, c'est pas facile à faire pour les marques qui se doivent constamment d'innover, de trouver des nouveaux moyens de relier justement les canaux offline, donc physiques, et les canaux online, digitaux. Et ça peut se faire notamment par le biais de programmes de fidélisation, de reçus sous format digitaux, d'un scan avec le code barre d'un coupon, ou bien encore de codes de QR code. Et donc cela va leur permettre de mieux identifier en fait leurs clients afin qu'ils ne soient plus notamment anonymes, mais vraiment de reconnaître le client A, qu'il soit allé en magasin ou qu'il fasse ses achats en ligne. Et donc pouvoir au mieux le guider dans son parcours, qu'il soit online ou offline, et avoir une cohérence dans sa communication auprès de ces clients-là.
Voilà, et tout ça, bien entendu, avec le consentement du client, hein, comme c'est la norme dans notre métier. Donc, on parle d'omnicanal, mais en fait, les canaux, c'est peut-être pas si simple que ça. Combien sont-ils? Quels sont-ils? Et est-ce qu'il y en a de nouveaux?
Alors, tout d'abord, nous, chez Marcis, quand on dit qu'un client a une réelle stratégie marketing omnicanal, c'est quand le client va utiliser au moins 3 canaux de communication. Bien évidemment, il y a bien plus que 3 canaux de communication, mais on part du principe que pour avoir une réelle stratégie marketing omnicanal, il faut au moins utiliser 3 canaux de communication. Et donc là, on peut parler évidemment du canal email, du site internet, des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, de l'application mobile, des SMS, du magasin, on en a parlé juste avant, ou même du direct mail, public postage. Donc ce sont tous ces canaux qui sont essentiels pour rentrer en contact avec avec ses clients et de susciter leur intérêt. Mais lorsque nous parlons en fait d'omnicanalité, nous ne disons pas que les marketeurs doivent se concentrer sur chaque canal disponible pour eux. Non, on parle dont la manière le marketeur va devoir interagir avec le client, avec son canal préféré. Il ne faut pas que la marque utilise tous ces canaux qui soient à disposition, mais s'adapte selon son client. Et des études ont montré justement que 91% des clients préfèrent acheter auprès de marques qui se connectent avec eux sur leurs canaux préférés. Donc par conséquent, bah, si votre client préfère les réseaux sociaux, eh bien à ce moment-là, faut plus facilement engager avec ce client via les réseaux sociaux et peut-être notamment via des influenceurs. C'est vrai que les influenceurs sont très en vogue et très tendance en ce moment et sont aussi un bon moyen d'attirer les clients. Mais ce canal n'est peut-être pas le même pour un autre client. Et puis, au fil du temps, le client peut également changer de préférence d'utilisation de canal. Donc, faut aussi suivre le comportement de son consommateur. Donc, votre stratégie omnicanal, c'est la combinaison de canaux que vous utilisez qui doivent être centrés sur vos clients, sur la manière dont vos clients souhaitent interagir avec votre marque.
Est-ce qu'il y a des canaux émergents? J'ai entendu parler récemment du RCS, par exemple, ou alors des choses un peu plus anciennes comme les applications de messagerie comme WhatsApp. Est-ce que c'est déjà dans le spectre ou est-ce que c'est un peu prématuré?
Je pense que pour le moment, c'est un petit peu prématuré. Je vois sur la partie WhatsApp, nos clients, quand on regarde nos clients, ils l'utilisent pas encore comme moyen de communication WhatsApp. Donc, pour le moment, la tendance émergente, c'est surtout le mobile. Donc déjà, là, nos clients se concentrent sur une meilleure utilisation de leur communication via le canal mobile. Et on a vu pas mal de clients établir des stratégies pour passer du site internet au mobile. Donc là, c'est plutôt la partie application mobile qui est plutôt la tendance émergente et pourquoi pas dans quelques années à l'application de messagerie comme WhatsApp.
Donc on l'a vu, ces canaux ne sont pas les mêmes pour tous les types de clients. Hein. Il y a des gens qui préfèrent l'email, d'autres qui ne supportent pas l'email et qui veulent des SMS, d'autres qui veulent, au travers de l'application, recevoir des notifications. Comment fait-on pour savoir quel canal convient à qui et lequel il faut choisir?
Pour cela, il faut analyser donc les données comportementales de vos clients, parce que comme je l'ai dit auparavant, chaque client est différent, chaque client a ses préférences, et en plus, les préférences peuvent varier en fonction des critères qui sont l'âge, le style de vie, la situation familiale, et également évoluer dans le temps. Ces préférences du client ne sont pas statiques, hein, elles vont évoluer dans le temps. Là, je vais prendre l'exemple de Allo Bébé, qui est un site en ligne qui vend aussi bien des vêtements de grossesse que des vêtements pour des petits bébés jusqu'aux premières années de l'enfant. Et ben ils vont venir s'adapter au fil du temps avec son client. Donc au début, voilà, la femme est enceinte, ils vont leur pousser des conseils et des offres pendant la grossesse. Une fois que l'enfant est né, ils vont leur proposer des articles pour le nourrisson. Et une fois que l'enfant va grandir, ils vont leur proposer des vêtements pour voilà, les premières années de l'enfant. Donc on voit que voilà, la marque doit s'adapter aussi au fil du temps sur sa manière de communiquer dans ses messages, mais aussi de par les canaux que son client utilise. Un client peut préférer aujourd'hui l'email, mais demain il préférera peut-être utiliser l'application mobile à l'email. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de gérer sa segmentation à l'aide notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle, et de prédire en fait les réponses, les attentes de vos clients sur la base de données comportementales. Et on a quelques chiffres via notre client, notamment Brandalet, qui a commencé à utiliser l'intelligence artificielle et qui a constaté en fait une augmentation de 10% de la valeur du panier moyen et a également récupéré 24% des clients qui étaient susceptibles de churner grâce à l'IA. Donc le pouvoir de prédire le comportement de son client a un réel impact aujourd'hui et positif sur les résultats marketing.
Maintenant, comment optimiser les mix de ces canaux et comment les utiliser pour maximiser les ventes?
Alors la première étape, ça va être de déterminer les canaux utilisés par vos clients. Il va falloir revisiter vos personas, personnes que vous voulez cibler et déterminer où vos clients interagissent le plus avec votre marque. Donc cela, en fait, va vous aider à déterminer les canaux les mieux adaptés à votre stratégie omnicanal. Et ensuite, vous devez tracer un parcours client qui passe d'un canal à un autre et vous assurer que votre stratégie est complète et cohérente tout au long du parcours. Et ensuite, vous ferez correspondre donc votre contenu au canal approprié. Et donc, le marketing omnicanal ne consiste pas à diffuser un même message sur tous les canaux, mais l'adapter sur chacun des canaux de communication et selon les différents clients. Et enfin, si j'avais un dernière étape à souligner, c'est d'optimiser évidemment au fil de l'eau l'utilisation de ces canaux et la façon dont vous les utilisez. Vous devez les tester encore et encore pour les optimiser, les améliorer pour avoir de meilleurs résultats et ajuster constamment votre stratégie omni-canal qui n'est donc pas figée dans le temps. Donc, je souligne ici l'importance de justement tester.
Vous signalez à juste titre qu'il ne faut pas envoyer les messages sur tous les canaux en même temps. Est-ce qu'il y a des recommandations aussi à établir en termes de pression commerciale ? Jusqu'où faut-il aller trop loin dans la pression commerciale ?
Et ben là, pareil, ça va dépendre de vos données comportementales et comment le client réagit face à vos messages, face à vos canaux de communication que vous avez utilisés pour envoyer votre message à votre client. Donc, il n'y a pas de chiffres à donner là-dessus, puisque ça dépend en fait de chaque client. On offre une expérience client ici personnalisée. Tout dépend de comment votre client réagit à vos messages et canaux de communication par lesquels vous êtes passé.
Parmi tous ces canaux impliqués dans votre stratégie marketing, lesquels offrent les meilleures performances en termes de croissance et de revenus ?
Alors, c'est vrai que l'email peut sembler vieux. Il y a une époque, c'est vrai, en plus, on disait que l'email serait mort, ce qui n'est pas du tout vrai. Et c'est vrai que l'email n'a pas un aspect très brillant et excitant comparé à d'autres canaux plus récents. Mais il faut savoir qu'il reste toujours le canal le plus performant du point de vue marketing, aussi du point de vue client et de son impact qui est constant pour toutes les marques. Et là, on a quelques chiffres selon la Direct Marketing Association qui est que l'email a un retour sur investissement moyen de $38 pour chaque dollar dépensé. Donc, on voit qu'on a un très bon retour sur investissement avec l'email. Mais c'est vrai que la difficulté va résider dans l'envoi de messages par lot et en masse. Il faut éviter, bien évidemment, ce qu'on appelle le email blast. Donc, si vous envoyez à vos clients du contenu dont ils veulent pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à vous ignorez, voire même à devenir ce qu'on appelle opt-out. Et donc, lorsque les marketeurs tombent dans le piège qui consiste à considérer que l'email comme allant de soi à ne pas le personnaliser, bah là, ils vont obtenir des résultats très médiocres et ce qui va avoir un impact sur leur base de données. Donc, vos clients, en fait, attendent de vous à ce que vous les compreniez, ce que vous leur fassiez pas perdre de temps avec des messages non pertinents qui ne les intéressent pas. Et il faut donc leur envoyer des messages qu'ils souhaitent entendre, qu'ils souhaitent recevoir, comme par exemple, évidemment, des petites réductions ou des opportunités de rupture de stock pour les produits qu'ils aiment. Encore une fois, la personnalisation est importante, si ce n'est essentielle, pour maximiser les résultats marketing. Et cela, c'est valable pour vraiment tous les canaux de communication, pas que l'email.
Pour conclure, pouvez-vous nous éclairer sur la rapidité avec laquelle se mettent en place les innovations dans le domaine du marketing omnicanal ?
Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que quand un canal nouveau apparaît sur le marché, il se met pas tout de suite en application, en fait. Ça met plusieurs années pour que les marques adoptent ce nouveau canal de communication, parce que si on prend l'exemple du mobile, c'est pas du tout nouveau l'application mobile, mais les marques mettent du temps à adopter les nouveaux de communication, les intégrer dans leur stratégie marketing et de savoir un petit peu comment apprivoiser ce nouveau canal. Il y a quelques années, c'était il y a peut-être maintenant plus de 50 ans, j'avais fait une étude sur la réalité virtuelle. Pareil, c'était un nouvelle technologie émergente, la réalité virtuelle, et on se disait que d'ici quelques années, on utiliserait de plus en plus la réalité virtuelle. Et en fait, on voit qu'on est toujours au même point. La réalité virtuelle, pour le moment, on l'utilise pas tant que ça. Donc, il y a toujours un petit décalage entre le moment où on va sortir une nouvelle technologie, un nouveau canal de communication, et le temps que la marque l'adapte. Ça prend bien au moins 10 bonnes années, si ce n'est pas plus.
Eh bien, il nous reste 10 bonnes années avant que le marketing omnicanal arrive dans le métaverse. En tout cas, en attendant, on sait tout de ce qu'il faut faire pour optimiser notre stratégie marketing omnicanal. Merci, Pauline.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.